que nous avons un Dieu d'amour et qui nous pousse non seulement à recevoir cet amour, mais aussi à le communiquer, à aimer. Et je crois que c'est là que la présence du Seigneur se manifeste, lorsque nous manifestons le caractère de Dieu dans la communauté et hors de la communauté. Maintenant, nous allons entendre la parole. C'est notre pasteur, Claude Bécher, qui va nous la donner. Alors, on va prier pour que nos cœurs s'ouvrent, mais que là aussi, nous puissions non seulement recevoir la parole, la comprendre, mais aussi l'incarner, la mettre en pratique, construire notre vie de foi, notre spiritualité, qu'elle devienne concrète. Mais Seigneur, merci pour Claude qui va nous apporter ta parole. Merci pour ce frère bien-aimé. Et nous te demandons de le bénir, de bénir sa famille, de le protéger, de protéger sa famille. Comme nous te demandons aussi, Seigneur, de nous permettre de recevoir cette parole pour qu'elle s'implante en nous et produise du fruit, et du fruit pour l'éternité. On le demande dans le nom de Jésus. Amen.
Merci. À mon tour de vous saluer les uns et les autres, content de vous revoir ou d'apprendre à vous connaître pour les nouveaux. Nous attaquons au début de l'année, entre septembre et puis juin, une épître. Il y aura une prédication par mois, pas tous les mois, mais une prédication sur un chapitre des Éphésiens. Et aussi, les cultes 4D ont décidé de prendre, dans le dernier chapitre de l'épître de Paul aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, un élément, chaque dimanche 4D, de l'armure du chrétien. Donc vous voyez, ça va converger cette année. C'est mon plaisir d'introduire cet épître. Aujourd'hui, il y a des éléments un peu de connaissance et il y aura aussi des éléments d'édification. C'est Léonie Klippert qui va nous faire la lecture de Éphésiens chapitre 1 tout à l'heure, pas tout de suite. J'introduis d'abord. Il y a un commentaire de l'épître de Paul aux Éphésiens qui a mis comme titre « Soyez riches ». Donc, vous voyez ce qui vous attend. Et d'ailleurs, il commence comme ça, je ne résiste pas à l'idée de vous lire cette histoire. Il y avait une femme qui s'appelait Hetty Green, aux États-Unis, ça pourrait être en Suisse aussi. Elle est décédée en 1916. La plupart d'entre nous n'étions pas là. Hein. Elle avait une fortune de 100 millions de dollars. Je ne sais pas combien, moi ça me déplace. Dès qu'on déplace le million, moi je... Bon, 100 fois comme ça. Elle se nourrissait d'avoine. Flocons d'avoine. Moi aussi quand j'étais étudiant, parce que je n'avais pas beaucoup de sous, mais elle, c'était autre chose. Son fils avait dû subir une amputation de la jambe. Pourquoi ? Parce que madame avait passé trop de temps à chercher une clinique gratuite. Vous y êtes ? Et son cas était devenu incurable à force d'aller de clinique en clinique. Oui, c'est les États-Unis. Remarquez ? Cette dame était très riche, hein ? Mais elle avait choisi de vivre en pauvresse. Est-ce qu'elle est excentrique? Est-ce qu'elle est folle? Peut-être, mais on n'a jamais vraiment pu le prouver qu'elle était folle. Pourtant, la narration de son histoire nous montre qu'il y avait comme un problème, n'est-ce pas? Elle était folle tellement qu'elle est morte d'un accident vasculaire cérébral alors qu'elle discutait avec quelqu'un sur le prix du lait écrémé. Vous allez me dire, quel est le rapport avec les Éphésiens, hein ? Vous avez raison. Betty Green peut être l'exemple d'une vie de beaucoup de chrétiens. Ils ont leur disposition des richesses dont ils ont oublié à quel point elles peuvent leur servir, et ils vivent, comme la plupart des contemporains, une vie de médiocrité matérielle liée à peu d'espérance. On a à notre disposition des richesses extraordinaires. Alors, avant la lecture, je vous montre, Dieu ouvre la perspective en Christ. Éphésiens 1, il y a 6 chapitres aux Éphésiens, il ouvre une perspective de richesse dans le Christ. Voici Éphèse, j'essaie de voir où on peut allumer, ça doit être là. Éphèse, ici, c'est dans la Turquie actuelle, il y a Athènes, il y a Éphèse. Athènes, Athéna, ça vous dit quelque chose? C'est la déesse guerrière, hein, d'accord? Et de la fécondité, mais aussi à Éphèse, il y a qui comme... Il y a Diane ou Épaphrodis. Artémis, merci. Merci Elisabeth. Artémis. Et il y a aussi un temple où il y a Zeus qui est adoré et Artémis. Artémis, vous savez, c'est cette statue avec plein de saints. Jamais vu? Plein de saints. Enfin, des saints, quoi. Hein? Pas des saints comme l'Église. Des saints comme les dames. Déesse de la fécondité. On l'adorait, là. Même il y a eu un jour, vous vous souvenez cette histoire de quelqu'un qui faisait, un orfèvre qui faisait des trucs avec le temple d'Artémis, et puis, comment ? Démétrius, il s'appelait ce type. Et puis le gars, il entendait ces juifs particuliers qui croyaient que Jésus était le Messie, et du coup, il vendait moins sa camelot, hein, nationale. Et il était frustré, il fait un soulèvement, et puis ça fait une foire pas possible. Mais Paul était connu, pas tellement comme le gars qui écrit des lettres compliquées. Paul était connu comme étant quelqu'un qui, au nom de Jésus, pouvait opérer des miracles. On le connaît pas bien comme ça, mais vous lisez le livre des Actes, vous voyez que Paul, c'était un thaumaturge, c'était quelqu'un qui priait, chassait les démons, qui, même, on disait que quelques-uns de ses pièces de tissu pouvaient opérer des miracles à cause de Jésus. Situé Éphèse et sa région. Alors, la lettre de Paul aux Éphésiens, d'abord, souvenez-vous que le mot Éphésien ne se trouve pas dans les quelques manuscrits les plus anciens. Il y a même un collectionneur d'écrits du Nouveau Testament qui s'appelait Marcion et qui a vu cet épître que nous disons aux Éphésiens qui s'appelait « Lettre de Paul aux Laodicéens ». C'est un peu plus loin. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas nécessairement aux Éphésiens que ça a été écrit, mais que c'était une lettre circulaire. Et malheureusement, on est tombé sur la copie aux Éphésiens. Vous saisissez, et nous, on a retenu aux Éphésiens. Toujours est-il, c'est dans un mouchoir de poche que ça se passe entre Laodicée, Éphèse, et des chrétiens qui sont là en minorité, grande majorité juive. Même, tenez-vous bien, il y avait un Égyptien qui a évangélisé cet endroit avant Paul. Barnabas. Et Barnabas, il ne savait rien sur le Saint-Esprit de la Pentecôte. Il baptisait les gens au nom de Jean. Et il suivait Jésus. Donc c'était quelqu'un qui avait quitté Jérusalem avant la Pentecôte. Et il évangélisait, parce qu'on peut évangéliser sans le baptême du Saint-Esprit. Regardez dans le livre des Actes, chapitre 20, vous verrez cette histoire, c'est assez incroyable. Paul, je vous ai dit, est un évangéliste. Paul est un guérisseur au nom de Jésus. Mais Paul est aussi un provocateur comme il n'en existait pas d'eux. Lisez un peu ce qui se passe quand lui, il confronte. Il n'y avait pas cette histoire de Démétrius seulement. Il y avait une autre histoire encore où il guérissait au nom de Jésus. Et puis, les fils d'un sacrificateur juif, les sept fils de Siva, qui chassaient les démons, ils se sont dit « Oh, celui-là, il a un super pouvoir, moi aussi, je vais faire ça au nom de Jésus. » Ils sont allés, les sept, ils ont prié au nom de Jésus, mais l'Esprit a bien vu que ce n'était pas Jésus qu'ils avaient, mais c'était juste la formule Jésus. Et il les a rossés et il les a dénudés comme ce n'est pas possible, l'Esprit. Vous connaissez les livres des Actes? Trempez là-dedans et vous allez comprendre quel est l'arrière-plan de ce que nous allons lire tout à l'heure. Paul, apôtre, c'est-à-dire envoyé, de Jésus le Messie. C'est comme ça qu'il se présente. Paul, apôtre de Jésus. Est-ce qu'il était... Il était un drôle d'apôtre, vous êtes bien d'accord, hein ? C'est après la résurrection que le Christ s'est apparu, d'accord ? Donc, vous voyez un peu la compétition entre les 11, de, peut-être les 12, ou je ne sais pas combien, de Jérusalem. Et puis ce gars-là, qui sait sans cesse essayer de renouer avec les apôtres de Jérusalem. Destinataire, regardez, l'Épître aux Éphésiens, à ceux qui appartiennent à Dieu. Jusqu'à là, il y a la synagogue. Mais la synagogue, là où Paul est allé à Éphèse, vous savez ce qui est arrivé ? À un moment donné, certains juifs de la synagogue ont reçu Jésus comme le Messie d'Israël et d'autres ont diffamé la voie, dit le livre des Actes. C'est-à-dire, ont foutu dehors les juifs qui croyaient que Jésus était le Messie. Du coup, ils sont allés, Paul est allé, dans une autre bâtiment, une école de Démétrius. Vous voyez un peu le truc ? Voilà le cadre, assez d'histoire. À ceux qui appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus le Messie. À ceux-là, ils écrivent. C'est nous, ça aussi ? À ceux qui croient en un Dieu créateur et qui croient que Jésus est le Messie. Ça fait de vous des juifs, hein, attention. Des juifs accomplis. Mais vous me dites, moi, je n'ai pas de biologie juive. Peut-être, j'en sais rien, hein, mais... Enfin, certains, oui, hein, plus que d'autres. Hein. Mais vous allez voir un petit peu le type de judaïsme que Paul va promouvoir. Éphèse, plus grand que Lausanne actuellement. 250 000 habitants. Centre culturel, c'est la banque, c'est la Genève de l'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie actuelle. Centre religieux consacré à Artémis. Artémis ou Diane, hein, fille de Zeus. C'est pour ça qu'il y avait Zeus et Artémis. Énorme, le centre de cette ville. Tout converge vers là. C'était une des sept merveilles du monde, cette statue. On disait que Artémis, la statue, était tombée du ciel. C'est au moins ce que vous lisez dans le livre des Actes. Les gens disaient, cette statue est tombée du ciel. Il y a pas mal de gens qui adorent des choses qui sont tombées du ciel. Même nous. Mais il n'est pas tombé. C'est Jésus. Elle est chasseresse, souvent elle tient un arc, aussi une déesse nourricière, c'était quelque chose. Et en 1, verset 19, il y a cette expression, au sujet de Jésus, l'énergie de la force de sa puissance. Vous avez vu cette manière de parler ? L'apôtre Paul. En 16 versets, il y a une phrase en grec. Et vous allez voir, c'est des versets typiques des modes de prière juive du temps de l'apôtre Paul. Nous, ça nous est tellement étranger. On a l'impression qu'on va s'endormir à la troisième phrase tellement il y a ces compacts. D'accord ? Si, si, on n'a pas l'habitude du tout. Mais vous allez voir, l'épître aux Éphésiens est quelque chose de génial. L'apôtre Paul va parler de Jésus-Christ, de la résurrection, et à nous... Soit nous sommes impressionnés devant le système romain ou grec ou d'Artémis ou de Zeus, et c'est impressionnant, croyez-moi, tout converge vers là. Soit alors vous vous laissez impressionner par cet autre roi, serviteur, qui est Jésus. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand Paul parle de Jésus-Christ en parlant de l'énergie, de la force, de sa puissance, par quoi nous laissons-nous impressionner ? Autrement dit, déterminé, parce que ce qui m'impressionne me détermine. Vous avez déjà vu ça ? Bienvenue au culte qui est au centre d'une économie injuste. Que ce soit Rome, que ce soit Athènes, que ce soit Éphèse, c'est un système qui vit très bien sur des modes d'économie injuste, où certes les Grecs ont une démocratie, mais seulement pour les libres. Mais la grande majorité des gens, c'est des esclaves. Et des esclaves des fois riches, des fois intelligents, plus intelligents que leurs maîtres des fois. Vous savez, l'esclave, c'est quand vous faites une guerre et que les autres, vous les prenez à votre profit, d'accord ? Et leurs enfants sont esclaves. On ne s'imagine pas bien, hein ? Mais voilà, bienvenue dans un système qui est autre que le système de vie fraternelle de Jésus. Paul et les chrétiens de la région. Paul a séjourné 2 ans et quelque chose à Éphèse. Et cette lettre, elle vient 10 ans après, d'accord ? Et on a l'impression que quand Paul écrit aux Éphésiens ou les gens de sa région, la Odyssée, etc., on a l'impression qu'il ne les connaît plus. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant ces 10 ans, et on se demande qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'il est passé, où il a dit « Je ne vous ai rien caché du plan de Dieu ». Il a même travaillé de ses mains, pas comme moi, je dépends un peu d'un salaire, d'accord ? Lui, il a travaillé, parce qu'il ne voulait pas être au crochet des gens qui l'évangélisaient, pour montrer la puissance de Dieu. J'ai rien contre le salaire d'un pasteur, hein. Juste pour vous dire, lui, il a fait ça. Ailleurs, il a fait autrement. De temps en temps, il était aussi soutenu par des hommes et des femmes. Paul a séjourné 3 ans à Éphèse, mais l'apôtre connaît néanmoins peu les destinataires. Et on peut se demander pourquoi il insiste tellement sur certaines vérités. Qu'est-ce qu'il est en train de corriger qui est arrivé à Éphèse ou à la Odyssée ? Paul évoque sa captivité. Il est en prison, Paul. C'est une épître de la captivité. On n'a pas l'impression qu'il se lamente. Il est pourtant à Rome, demandant au lecteur de prier pour lui. Et on est donc dans les années 61-62. Vous pouvez lire ces récits dans Acte 20 et Acte 28. Chez vous, je n'ai pas le temps, moi j'ai résumé, d'accord ? Vous voyez, rentrer dans une épître, c'est rentrer dans un monde. C'est une lettre circulaire. Épître de Paul aux Laodicéens. Ou épître de Paul aux Éphésiens, disent certains manuscrits. C'est pour ça que c'est retenu comme ça dans nos Bibles. Ou Hiérapolis. Paul désire partager avec ses croyants de grandes vérités, un peu comme si l'Église était en danger d'oublier certaines vérités. Lesquelles ? On va le découvrir cette année et voir aussi si nous sommes aussi en danger de cet oubli. Et peut-être aussi de l'oublier lui, Paul. Peut-être. Alors, nous allons lire bientôt, c'est une instruction célébration. J'aimerais juste vous dire, en introduction, chapitre 1 à 3, c'est instruction célébration, la connaissance du plan de Dieu, d'accord ? Et chapitre 4, 5, 6, c'est juste le pendant, pour les savants, c'est une structure en X, chapitre 1, chapitre 6, d'accord ? Les armes du croyant, chapitre 1, vous allez voir, ça se rejoint, chapitre, d'accord ? C'est une structure chiasmique. Et au milieu, vous avez ce chose qui a voulu être souligné par Paul, c'est « Christ est notre shalom ». Juste au milieu, c'est pas neutre, c'est fait exprès, c'est pas fait pour que ça parle. La lettre chante la gloire d'un bienfaiteur, c'est Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit. Et il y a de longues phrases typiques des bénédictions juives, pour nous étrangères, mais on va y rentrer, vous allez voir. Et on va essayer de nous laisser pénétrer par la lecture d'Éphésiens. Relevons la richesse liée à la foi en Jésus le Messie. J'aimerais demander à ma lectrice si elle veut bien. Alors, attention, c'est long. On va lui demander de lire pas trop rapidement, mais je crois que ça va aller. On va lire en même temps la version qui se trouve publiée. Laissons-nous pénétrer par Éphésiens 1.
Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, appartiennent à Dieu et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous accorde la grâce et la paix. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblé les bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et il a répandu sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il a fixé d'avance dans sa bonté en Christ pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'il avait fixé. C'est lui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premières, avons placé notre espérance dans le Messie. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est cet esprit qui constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu et à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il a déployée dans toute sa force et en faisant agir dans le Christ. Lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, elle a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et c'est Christ qui domine toute chose. Il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous.
Typique, l'apôtre Paul. Vous avez vu combien il met des choses dans ses phrases? Qu'est-ce qui vous a frappé? Quelque chose vous a frappé? Plein de richesses. Mais il y a des expressions? La grandeur de sa puissance. Ou quelle expression? L'héritage. Quelle expression ou mot? En Christ. En Christ. Vous savez quoi? Ça, c'est typique de l'apôtre Paul. Vous ne trouvez pas ça chez Matthieu comme ça, d'accord? Avec Jésus, mais en Christ. En Christ, c'est comme une icône. Icône veut dire image. Vous savez, vous cliquez dessus et vous avez tout un monde qui se lève. Pardon pour la génération des années 50. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Vous cliquez dessus et c'est et tout un nouveau mot. En Christ, c'est juste une expression. En Christ. Il prie pour les destinataires. Et déjà là, nous avons une leçon. Il est reconnaissant pour eux alors qu'il s'est passé des choses dont lui n'était même pas l'acteur. Il se réjouit. Nous avons un lieu d'entraînement ici aussi. Ici, nous apprenons à nous connaître, à fraterniser, à cultiver la fraction du pain, l'enseignement des apôtres, les activités. Mais il y a tellement de choses qui se passent en Christ dans ce monde. Si ça pouvait nous concerner comme ça concernait l'apôtre Paul, pour dire « je suis reconnaissant ». D'entendre parler de ce qui arrive, de votre foi. Pensons-nous également ainsi dans la région de Lausanne, dans notre région, notre continent et dans le monde. Je suis reconnaissant. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Vous n'avez pas besoin d'être pentecôtiste pour penser comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a des réconciliations. Il y a des témoignages dans les milieux simples ou difficiles. Il y a des résistances à des lois injustes. Il y a des gens qui ne plient pas les genoux devant, peu importe le nom qu'on puisse nommer. Il y a des gens qui s'aiment et qui vivent une vie fraternelle, alors que rien ne les prédisposait à aller communier avec les païens ou les non-juifs, ou les juifs, ou les hommes, ou les femmes, ou les patrons, ou les employés, ou les esclaves. Demande, Paul demande qu'il puisse mieux connaître, vous avez vu le maire connaître, afin que vous connaissiez. Et alors ici, il ne s'agit pas de la connaissance rationnelle, il s'agit de la connaissance intellectuelle générale. Il dit, j'aimerais vous, que vous compreniez le plan de Dieu pour que vous ajustiez votre vie et vous vous réjouissiez. Donc la révélation qu'il donne, c'est, et les amis, vous savez ce qui est en train d'arriver? Il y a un plan de Dieu. Il est en train d'arriver. Il y a des gens, ils sont tellement mordus par les choses qu'ils voient, qui n'arrivent pas, des gens qui meurent, des gens qui n'arrivent pas à gravir les échelons de la bourse comme ils le voudraient. On est focalisé là-dessus, on oublie ce plan de Dieu. Et là, l'épître de Paul aux Éphésiens nous rappelle, n'oublie pas. Je voudrais que vous connaissiez, intégriez que le plan de Dieu est en train de se dévoiler de multiples manières. Et il demande qu'ils puissent mieux connaître le Père. Mieux connaître le projet, qu'il illumine leur intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il l'asphyxie, leur intelligence. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ton intelligence. Et ton cœur, bien sûr. Et ta force. On ne la met pas sous le tapis, l'intelligence, quand on est chrétien. On la met à disposition de Dieu. Pour qu'on rentre en diapason avec le projet qu'il a. Quel est le projet? C'est, écoutez, on va le découvrir tout à l'heure, rien d'autre que réunir l'univers entier sous une seigneurie, celle de Jésus, et pas de Zeus. On continue. Question, ajustons-nous également notre espérance et notre engagement de vie? Autrement dit, est-ce que je vis comme ça au petit détail, avec mes petits problèmes, ou est-ce que je garde en tête la grande perspective et ma foi, ici à l'Église, ou en dehors de l'Église, quand je suis l'Église dispersée, mon culte consiste à ajuster avec les moyens que j'ai et dans la situation dans laquelle je suis, ma personne au projet de Dieu. C'est ça, le projet d'Éphésiens. Alors, je tire trois choses pour notre vie. La première, regardez, la richesse, la sagesse, la force se trouve en Christ. Nous retenons ça? Moi, j'aime bien être un peu pieux parfois, pas toujours. Et d'écrire à des jeunes ou à des moins jeunes, peu importe, amitié en Jésus-Christ. Et tant pis si ça fait ringard et vieillot, ça c'est mon identité. Et si vous êtes baptisé au nom de Jésus, vous comprendrez à quoi je me réfère. C'est plus qu'une formule creuse. On peut en faire une formule creuse, comme les sept fils du sacrificateur juif d'Éphèse. Hein. On peut en faire des formules magiques et creuses, mais il ne s'agit pas de ça. C'est quoi ton identité? Toi qui as été baptisé, qui aime, c'est en Christ. Sinon, tu regardes ton nombril, tu te dis, moi, j'aime le Seigneur. Non. Tu es aimé et il t'a placé en Christ. C'est encore une autre perspective. Prédilection pour cette expression, en Christ. Pas en nous-mêmes. Vous avez été choisi en Christ. Vous n'avez pas été choisi parce que vous, parce que Claude. Enfin, moi, je suis sûr que non, hein. Mais j'ai été choisi pour quelque chose. En Christ, pas en nous-mêmes. Même pas parce que je me suis converti. Même pas parce que je me suis repenti. Et il faut passer par là aussi. Mais parce que j'ai été aimé depuis longtemps en Dieu passionné de relations. C'est pour ça que je suis chrétien. Parce que j'ai été aimé. Pas parce que je me suis converti et que moi je suis enfin arrivé à la communion. Vous comprenez? Regardez la perspective, c'est extraordinaire. Pas en nous-mêmes, mais c'est un don de Dieu. Pas par nous-mêmes, mais en Jésus-Christ. Le seul juste. Mes amis, essayez de faire ce que vous voulez. Si c'est par vous-même, vous êtes perdus. Parce que par vous-même, vous êtes comme moi, c'est-à-dire assez de zones d'ombre en nous-mêmes pour qu'on puisse s'introspecter pendant toute la vie. Or, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Vous comprenez? En Christ, c'est le seul juste. C'est le seul qui a plu à Dieu et que Dieu a ressuscité d'entre les morts en lui, chef de file d'une humanité nouvelle. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. Vous comprenez pourquoi il est le seul juste? Votre identité, la mienne, celle de Villard, c'est en Christ. Ça ne peut pas être autre chose. C'est pour ça que toute vision qui n'a pas cette perspective, elle est condamnée à être œuvre d'homme. Pas par nous-mêmes, c'est-à-dire dans la communion avec Jésus-Christ qu'on reçoit à un moment donné quand on a abdiqué, Seigneur, j'étais esclave du péché, mais tu es venu me mettre une lumière dans ma vie. À ce moment-là commence quelque chose qui va au-delà de la transformation individuelle, qui rentre dans un projet qui est de toute éternité. Et c'est là qu'il devient affolant, l'apôtre Paul. Il nous dépasse dans notre compréhension. L'élection, vous êtes élus en Christ. Ce n'est pas que toi, c'est collectif, c'est le peuple de Dieu. Dieu ne change jamais sa stratégie. Quand il a voulu passer par un peuple, il passe par un peuple. Et si ce peuple ne veut pas, il fera de telle sorte qu'il y a un autre peuple qui naisse à partir des cendres. Nous avons tendance à penser trop individuellement. On se voit moi et mon Dieu. Mais c'est pas ça le projet de Dieu, c'est plus loin que ça. C'est « je fais partie du peuple de Dieu, il m'a adopté alors que j'étais esclave ». Vous avez souvenu? Il nous a adoptés. On l'a lu. L'élection est communautaire, c'est lui qui a l'initiative et qui poursuit son œuvre en nous par le Saint-Esprit. Je viens maintenant à cette image. En Christ, nous l'avons vu. Deuxièmement, c'est dans un amour que nous avons été choisis. Et cet amour, c'est même pas juste Jésus, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est amour. Il n'est pas Zeus, Père fouettard. Il est créateur des cieux et de la terre, mais il est passionné de relations. Et dans ce plan initial, il nous a choisis. Et il nous a rachetés. Et pas pour être des esclaves qui ne comprennent pas du tout ce que fait le Maître. Il nous a rachetés pour nous adopter. Vous avez déjà vu ça? Vous achetez un esclave pour l'adopter comme fils et héritier. Vous y êtes? Et à ce fils, et l'esclave sont différents. Le fils, il sait ce que fait le père, et il ne le fait jamais assez. Tandis que l'esclave, il en fait toujours de trop. On lui dit qu'est-ce qu'il doit faire, mais il ne comprend pas. D'accord? La mentalité du fils. Il y a ici quelque chose d'intéressant qui a affolé pas mal de théologiens, mais j'aimerais juste vous dire les choses un peu plus simples. Avant la fondation du monde, il nous a choisis. Vous comprenez ça, vous? Ah oui En Jésus. En Jésus, il y a de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en Jésus, il nous a choisis. C'est-à-dire, le plan initial, il continue avec nous. Autrement dit, il ne laisse pas l'humanité aller à la dérive. On a l'impression, quand on regarde les informations, n'est-ce pas, que tout va à volo, non? On se dit, c'est quand la fin? C'est quand nous? Et la peur grandit. Mais on oublie ce projet-là qui est en Jésus qui est le projet initial que le Seigneur reprend. Vous avez cette expression trois fois dans le Nouveau Testament, notamment, je prends seulement Jean 17, 24, le Père aime le Fils avant la fondation du monde. Le « avant la fondation du monde » se réfère à Dieu lui-même. Et c'est en Dieu lui-même, dans l'amour. Mon identité, c'est dans l'amour. Je suis aimé de toute éternité. Je ne suis pas juste le fruit d'un hasard entre un père et une mère qui se sont aimés une fois. Je m'inscris dans un plan de Dieu. Un nouveau sens, nous sommes déjà pensés dans cet amour. Donc, deuxième point, quand on comprend qu'on rentre dans un projet d'amour, tout d'un coup, il y a quelque chose qui devient une denrée rare, spécialement dans un temps comme un Occident, où on oublie le sens de la vie. Ici, il y a un sens de la vie. Je m'inscris dans un sens de la vie. Ce n'est pas le hasard et la nécessité. Ce n'est pas juste quelque chose qui fait que moi, je suis né ici. J'ai un sens dans ma vie, vers un but. L'accomplissement des temps, c'est l'expression chapitre 1, verset 10, jusqu'à la maturité des temps. C'est-à-dire là où Dieu veut en venir. Quelque chose a commencé dans ce monde-là, pour reprendre une expression de la fin d'Éphésiens, dans ce monde-là et dans le monde à venir, de là où Dieu veut en venir. Il ne laisse pas tomber l'affaire. Uni à Jésus-Christ, il règne dans les cieux. Je ne sais pas si vous avez été frappé, dans les cieux. Nous régnons dans les cieux, avec lui, dans les cieux. C'est quoi ce truc-là? Aujourd'hui, vous n'avez plus du tout ce langage. Allez à l'université à Lausanne, vous n'entendrez plus dans les cieux. D'accord? C'est quoi dans les cieux? Il règne dans les cieux. C'est où? C'est où? C'est où? Et quand je dis où, c'est une localisation géographique. Or, ce n'est pas une localisation géographique. C'est le monde spirituel, c'est-à-dire cette autre dimension de toutes les réalités où le Christ est reconnu comme roi. Au-dessus de toute chose, où le ménage est fait, où il y a une création guérie. C'est cette autre dimension de partout. Méfiez-vous, dans les cieux, c'est plus près que vous croyez. Et je ne dis pas seulement la mort, ça a commencé dans la foi. Et je crois que c'est important, un nouveau sens de la vie, uni à Jésus-Christ qui règne dans les cieux, ce plan est appliqué et anticipé par Dieu lui-même qui s'appelle l'Esprit. Je crois à la nécessité de vivre dans la communion de l'Esprit Saint. Pas en nous-mêmes, mais Dieu appliquant son projet. C'est son rôle. L'applicateur du salut, c'est l'Esprit Saint. Celui qui soutient la création, c'est l'Esprit Saint. On ne peut pas se passer de l'Esprit Saint en Christ. Et sont concernés, je ne sais pas si vous avez vu, je vous rends juste attentif, dans Éphésiens 1, il y a deux expressions. Il y a nous sont concernés les juifs, nous qui attendions le Messie, versets 11 et 12, et les non-juifs, vous aussi, versets 13, 14. Le plan de Dieu, c'est nous et vous ensemble. Ça s'appelle le peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul ne se convertit pas du judaïsme au christianisme. Paul est dans le judaïsme. D'accord ? Avec Jésus comme Messie. Essayez de comprendre. Quand on dit judaïsme aujourd'hui, c'est un mouvement qui, à partir de l'an 70, a rejeté la messianité de Jésus. Ce n'est pas le judaïsme. Vous comprenez ça? Je sais que ça vous dérange, moi aussi, un petit peu, parce qu'on ne sait des fois plus sur quel pied danser, à cause de nos manières de parler. Mais pour Paul, on reste juste dans le judaïsme, et il cite les Écritures pour cela. Et j'aimerais vous rendre attentif. Vous allez me dire, c'est quoi ce truc de prédestination et d'élection? Je vous donne juste une clé. Nous, ce qui nous manque, c'est la manière de comprendre des Grecs et des Romains à l'époque. On est devant un marché aux esclaves, c'est quelque chose d'assez commun, des hommes et des femmes, j'ai mis que des hommes, vous me pardonnerez. Pour une histoire de décence ou du puits des Bondries, vous choisirez. Le maître a un plan, il se cherche des esclaves, il fait un choix, élection. Il a prédestiné, c'est-à-dire le plan, il choisit pour un but. Vous n'allez pas au marché d'esclaves si vous n'avez pas de but. Ou alors c'est juste pour la beauté des gens, peut-être, ou perdre du temps. Il y a un service, il y a une délivrance, Il y a un prix à payer, c'est-à-dire un rachat. Et ça, vous avez le rachat avec le sang de Jésus. Et vous avez enfin le sceau qui fait que vous avez changé de propriétaire. Et ici, le mot sceau est repris par le Saint-Esprit. C'est quoi la signature de Dieu? Le Saint-Esprit. Vous avez là tout un vocabulaire qui se réfère pas juste à de la théologie abstraite, où on se poserait la question, oui, mais ceux qui ne sont pas élus. Non, 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 l'axe est élu pour, pas élu parce que, élu pour, tu as été choisi pour quelque chose. Et je crois que c'est important de comprendre que l'arrière-plan ici dans Éphésiens est le marché aux esclaves, dont nous n'avons plus nécessairement beaucoup d'usage aujourd'hui, quoique. Élire, c'est un choix. Il a choisi Abraham, il a choisi Sarah, Abraham, Israël, un reste. Prédestiné, c'est une décision prise à l'avance avec un but. D'accord? C'est ce que je viens de vous dire. C'est des mots qui ont rapport avec le marché aux esclaves, pas avec de la théologie abstraite. La question, y a-t-il une nuance entre élire et prédestiné? Oui, l'élection désigne le choix de Dieu en vue d'une tâche, afin que vous soyez saints, c'est-à-dire particuliers, pas sainte ni touche. Saint, ça veut dire particulier, particulier de Jésus, d'accord? Saint et irréprochable, pas impeccable, parce que sinon personne de nous ne pourrait. Mais irréprochable, c'est-à-dire entier sur la marche de Jésus, élu pour ça. C'est pour ça que vous ne pouvez jamais penser qu'on est en Christ sans être en même temps comme Christ, le mieux possible, aimant la justice et la paix comme il l'a fait. La prédestination précise les buts du choix de Dieu, prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus le Messie. Frères et sœurs, rien de moins que enfants du Père. Donc héritiers. De quoi? De l'univers entier. C'est où la terre promise? Là où je me situe. Il n'y a pas d'autre terre promise. Là où les enfants de Dieu sont respectés. Remarquez, nous ne sommes pas élus parce que, mais pour, nous le retenons, pour un héritage et une mission. Ne vivons donc plus comme des esclaves, et le dernier point que j'aimerais souligner, vous avez vu comment ça termine, chapitre 1, par l'Église. Et il l'a donné comme chef à l'Église qui est son corps. Tu n'es pas choisi, élu tout seul, tu es choisi pour être en Christ, c'est-à-dire dans un corps. Ici, à Lausanne, nous avons toutes sortes de succursales du Seigneur. Hein? Ça va comme expression? Ce sont nos frères et nos sœurs. Il y en a qui nous énervent, il y en a qui nous énervent moins. C'est vrai, non? Dans leur mode de faire, dans leur manière, peu importe. Tous ceux qui convergent vers Jésus-Christ sont nos frères et nos sœurs quand ils le professent, Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et nous faisons partie non seulement d'un corps local, mais aussi d'un corps régional. C'est pour ça que j'aime bien cette image, pas pour la tête de Jésus, mais pour les gens qui sont dans son corps. L'Église devient corps messianique. C'est quoi ton identité? C'est quoi ta mission? C'est celle de Jésus. Vous l'acceptez, ça? C'est en son nom que nous avons été baptisés, c'est aussi lui que nous voulons servir. Une identité, une mission en Christ dans laquelle je m'inscris. Et ce corps résiste au pouvoir partageant et poursuivant par la puissance du Saint-Esprit le combat du chef. Pourquoi Éphésiens 1? Parce qu'il va arriver au suite, à la suite. Il y a un combat à mener quand on est en Christ. Ce combat à mener quand on est en Christ, c'est les moyens de Jésus-Christ. Jésus critique une société devenue violente en apportant une société fraternelle. Que le Seigneur nous aide à intégrer ceci dans nos corps, qu'il illumine notre intelligence, afin que là où nous soyons, qui que nous soyons, nous convergions vers ce projet qui est en train de se poursuivre. Amen.